Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte sans agressivité les rouages de l'économie mondiale. En France, la pandémie de Covid-19 a mis sur le devant de la scène des gens dont on entend habituellement peu parler, caissières, livreurs, aides-soignantes et bien d'autres, dont on a découvert à quel point leur fonction était essentielle pour le fonctionnement de nos sociétés et à quel point ils ou elles étaient mal payés. Cette question des revenus n'est cependant pas une découverte. Depuis 2 ans, le mouvement des Gilets jaunes l'a mise à la une de l'actualité française. Les salaires ne progressent pas, ne progressent plus et ne suffisent pas pour les plus bas d'entre eux à assurer un niveau de vie conforme au développement du pays. La question n'est pourtant pas limitée à la France, c'est une problématique globale, nous le découvrirons dans cette émission. Alors pourquoi les salaires stagnent-ils? Est-ce un hasard ou le fruit d'une politique délibérée? Est-il possible de revenir à une phase de hausse généralisée des salaires? Voilà quelques-unes des questions qui seront posées au fil de cette émission aux deux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Patrick Artus.
Bonjour.
Patrick Artus, vous êtes chef économiste de la banque Natixis, professeur associé à l'école d'économie de Paris, et vous venez de publier aux éditions Odile Jacob un livre qui s'intitule « 40 ans d'austérité salariale, comment sortir ?» Avec vous dans ce studio, Philippe Askenazy, bonjour.
Bonjour.
Philippe Askenazy, vous êtes directeur de recherche au CNRS, prof à Normalsup, l'école normale supérieure de Paris. Votre dernier ouvrage, « Le partage des richesses », est paru chez Odile Jacob. Le livre précédent, « Tous rentiers », également chez Odile Jacob, paraîtra bientôt dans une version augmentée et actualisée en langue anglaise, sous le titre « Share the Wealth, How to End the Rentier Capitalism ». Ce sera chez Verso Book. Au cours de cette émission des reportages, bien sûr, nous irons à Marseille, où nous attend Stéphane Burgat, à Istanbul retrouver Anne Andlauer, et à Québec rejoindre Pascal Guéricola. Commençons cette émission en donnant la parole à l'une de celles dont il sera question pour une bonne part tout au long de cette conversation. C'est le témoignage d'une employée des magasins Carrefour pendant une manifestation organisée la semaine dernière à Paris par les organisations syndicales. Parmi les revendications principales, évidemment, la hausse des salaires. David Bachet du service économie de RFI était sur place pour Écho d'ici, Écho d'ailleurs.
Comment est-ce que vous vous appelez, madame ?
Madame Yamani.
Et votre prénom ?
Wardia.
Vous, vous faites quoi dans la vie ?
Ben, moi, je suis responsable fromage groupe, charcuterie à la coupe.
Chez Carrefour ?
Oui.
Alors, vous avez travaillé pendant le coronavirus ?
Ben, bien sûr, on a travaillé pendant le confinement, sauf qu'on n'a pas été récompensé comme il fallait.
On vous a promis des augmentations de salaire.
C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'on est là. C'est la raison, en fait, qu'on est là. On ne nous a pas augmenté, on nous a promis. On n'a pas tenu les promesses. On en veut au gouvernement. Oui, à la direction aussi. La direction Carrefour, elle n'a pas tenu ses promesses.
Les autorités n'ont pas arrêté de dire que vous aviez été exemplaire pendant la crise.
On était au premier franc, oui. On disait qu'il n'y avait que les infirmiers et les médecins, oui, d'accord. Mais nous aussi, dans la distribution, on a galéré, on a risqué notre vie, les caissières aussi. Mais sauf qu'à la fin, on n'a pas été augmentés, les promesses n'étaient pas tenues. Il y en a ceux qui n'ont même pas reçu la prime là de 1000 euros. Les gens qui étaient en accident de travail et n'ont pas perçu leur salaire, la prime plus tôt. Et puis les salaires sont toujours à 1200 et ce n'est pas avec 1200 qu'on va aller plus loin.
Yamani Wardia, Wardia Yamani, au micro de David Bachet du service économie de RFI. Patrick Artus, 1200 euros pour vivre, c'est insuffisant en France ?
Oui, surtout dans les villes. Hein, et la situation est différente si on va dans des petites villes ou à la campagne. Je crois qu'il y a deux grands sujets. Hein. Il y a le partage des revenus. Alors si on faisait ce débat aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre ou au Japon, finalement ce débat serait beaucoup plus simple, parce que c'est des pays où depuis 20 ans les salaires n'ont pas suivi la productivité. Et c'est pour ça que Joe Biden, d'ailleurs dans son programme de campagne aux États-Unis,
candidat démocrate
à la présidence, propose une très forte hausse du salaire minimum, qui fait l'objet d'un très grand consensus. Hein.
Voilà. Ici, en France, le salaire minimum
Le problème que nous avons en France, c'est que les salaires ont augmenté à l'épaisseur du trait près, à peu près, même un tout petit peu plus vite que la productivité.
Alors vous faites le parallèle entre hausse des salaires et productivité. Pourquoi ? Quel est le lien ?
Parce que si le partage des revenus est stable dans le temps, c'est-à-dire si la part des salaires dans le PIB est la même au cours du temps, ça veut dire que les salaires augmentent comme la productivité du travail.
Mais est-ce que la productivité du travail a un impact direct sur le niveau des salaires normalement ?
Normalement, oui. Normalement,
expliquez-nous le mécanisme économique.
Le mécanisme, à nouveau, c'est que vous avez 100 de PIB, vous décidez que là-dedans, il y a 70 de salaires et 30 de profits. Je simplifie énormément parce qu'il y a les impôts. Et si vous voulez que la part des salaires reste à 70%, et bien chaque année, il faut que les salaires augmentent comme la productivité. Et comme ça, la part des salaires dans le PIB va rester la même. Donc à nouveau, aux États-Unis ou dans l'OCDE, si vous regardez globalement, il y a eu une très forte baisse de la part des salaires dans le PIB, c'est-à-dire depuis longtemps.
C'est-à-dire dans la richesse nationale.
Dans la richesse nationale, voilà. Et d'autant plus d'ailleurs qu'on regarde les bas salaires. Aux États-Unis, les 40% d'Américains en bas de l'échelle des revenus ont à peu près le même pouvoir d'achat qu'il y a 30 ans, ce qui est absolument incroyable. Alors que la productivité a augmenté.
Alors que la richesse nationale a énormément augmenté.
De 2%, un peu plus de 2% par an, eux, ils ont eu zéro. Donc il y a une très grande anomalie dans le partage des revenus dans plein de pays, mais il y a deux exceptions qui sont la France et l'Italie. Donc en France et en Italie, il faut poser la question des bas salaires différemment. C'est-à-dire on peut, je ne sais pas ce qu'en pense Philippe, mais je ne pense pas qu'en France, il soit une bonne politique de faire une hausse massive du salaire minimum, parce que au contraire, on détruirait beaucoup d'emplois peu qualifiés. Donc il faut avoir une autre approche de ce problème.
Mais pourquoi est-ce que les gens peu qualifiés seraient mal payés ?
Si vous voulez, il y a un remède de premier ordre. Qui est celui que veut appliquer Biden aux États-Unis. C'est-à-dire, on va monter les bas salaires. Ce remède, aux États-Unis, il est parfaitement légitime. Et je pense qu'en France, ce remède-là serait dangereux. Tous les travaux que nous avons, y compris des réactualisations récentes, montrent qu'il y a une très forte sensibilité de l'emploi peu qualifié au niveau du coût du travail, peu qualifié. Donc, si vous montez fortement le salaire minimum en France, vous allez améliorer le pouvoir d'achat de ceux qui ont un emploi, mais vous allez détruire beaucoup d'emplois peu qualifiés. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, parce que quand vous avez un salaire minimum qui est très bas, au contraire, il y a des effets vertueux d'augmentation du salaire minimum. Vous ramenez des personnes à l'emploi. Les personnes qui sont découragées par les bas salaires acceptent de prendre un travail s'il est un peu mieux payé. Je pense qu'en France, on est de l'autre côté. C'est-à-dire qu'une hausse massive et généralisée des bas salaires serait trop destructrice d'emplois pour que ce soit la bonne politique. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de politique pour les bas salaires, mais que c'est probablement pas la hausse massive du salaire minimum, par exemple.
Philippe Askenazy, est-ce que vous partagez ce point de vue ? Est-ce que les gens en bas de l'échelle sont destinés à être mal payés éternellement ?
Alors, je pense que là se joue en quelque sorte le nœud de l'incapacité aujourd'hui de penser de nouvelles politiques. C'est-à-dire que cette idée que les salaires doivent suivre la productivité est justement totalement battue en brèche par le fait même qu'on parle de travailleurs essentiel. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout, si on parlait en termes techniques, dans une fonction de production où le travail serait un input, où il y aurait des éléments marginaux, etc. Toute cette littérature économique qui aboutit, cette théorie de base classique qui aboutit à dire salaire égale productivité marginale. Lorsqu'on a des travailleurs essentiels, il n'y a pas de productivité marginale. On a besoin de ces travailleurs. Et donc le fait qu'on ait besoin d'avoir un éboueur, le fait qu'on ait besoin d'avoir des caissières, le fait qu'on ait besoin d'avoir des infirmières. D'ailleurs, plutôt des emplois féminins, on est là entre hommes autour de cette table, mais c'est une question qui est avant tout une question des femmes au travail, cette question des bas salaires. Eh bien, puisqu'on en a besoin, il n'y a pas de problématique de productivité marginale, c'est plutôt un choix de société, à quel niveau on va mettre le salaire pour ces personnes-là. Et il faut bien avoir en tête qu'on dit qu'en France, le salaire minimum est particulièrement élevé, etc. Mais il y a aujourd'hui à peu près du même niveau en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Et de la même manière, une part de nos collègues allemands et britanniques, justement en s'appuyant sur des travaux français qui, en fait, sont pour ma part, je les considère comme non conclusifs, s'appuyant sur ces travaux-là, prédisaient des destructions massives d'emplois dans le cas britannique comme allemand. Or, elles ne sont pas venues. Et aux États-Unis... Donc pourquoi il précise ? Ben parce qu'il y avait cette idée que vous avez un effet coût du travail qui fait que lorsque vous augmentez le coût du travail pour une entreprise, cette entreprise-là, elle va devoir faire un arbitrage et cet arbitrage-là va être de réduire la masse d'emplois. Or, si vous voulez, lorsqu'on se trouve devant des travailleurs finalement essentiels, elles ne peuvent pas faire ça. Elles ont besoin de toute manière de ces travailleurs. Notre économie a besoin de ces travailleurs. Donc on se renvoie plus vers une question de société. Or, là, Patrick Artus citait le cas américain, c'est justement ce qui se dessine aujourd'hui. C'est plutôt une définition de ce que c'est le fair wage, c'est-à-dire un salaire juste au sein de la société, que de faire rentrer des mécaniques économiques. Dans un des fameux battleground states, là, les États où swing states où va se jouer la bataille, vous avez en Floride, en même temps que l'élection présidentielle, il y a une forme de référendum, ça s'appelle des ballots, sur un salaire minimum de $15 de l'heure. Or, actuellement, les sondages donnent 70% de oui à ce $15 de l'heure. Or, $15 de l'heure, quelle que soit la manière que vous mesurez, c'est largement supérieur au niveau français actuel. Donc, je crois que vraiment, aujourd'hui, il faut changer complètement de mode de pensée et que travailleur essentiel, ça veut dire qu'il y a un choix de société à avoir vis-à-vis de ses travailleurs. C'est le choix finalement que, d'une certaine manière, la France a fait et que d'autres pays font en augmentant le salaire des soignants. On les considère comme essentiels. On augmente et puis on ne se pose pas la question si ça va détruire des emplois de soignants. En fait, non.
Alors, Patrick Artus, je vous donnerai bien la parole, mais d'abord, on va retourner sur le terrain. Employés de la grande distribution ou paramédicaux à l'hôpital public, ils ont été en première ligne depuis le début de la crise du coronavirus, tout particulièrement pendant la période de confinement. La question salariale tourne aujourd'hui au malaise, on le sent bien, au travers des marches pour l'emploi et la dignité qui se sont multipliées ces dernières semaines. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Stéphane Burgat à Marseille.
Vaste sentiment d'injustice parmi le personnel des hypermarchés marseillais, des caisses jusqu'aux employés de rayon où l'on dénonce, comme Franck Meunier, un salaire de misère.
Je commence à 3h30 du matin jusqu'à 10h30 pour charger le rayon. Tout ça pour gagner 1 288 € par mois, net. C'est scandaleux, je trouve. Ça va faire ma 10e année, là, cette année, que je travaille.
Et en 10 ans, votre salaire, il a été réévalué de combien ?
Non, honnêtement, rien, toujours pareil, hein. C'est pas cher payé, mais du tout. Franchement, c'est pas cher payé. On va nulle part. On survit.
D'autant que ces salariés se sentent en première ligne avec le contexte de pandémie dans ce secteur de la grande distribution marqué par une forte précarité, déplore le représentant CGT Carrefour Le Merlan, Johan Nesri.
Dans la grande distribution, on a des salaires qui sont très proches du SMIC, avec pas énormément d'avantages sociaux qui s'ajoutent à ça. Mais on a énormément de temps partiel qui touchent moins d'un SMIC en vérité, parce qu'ils sont à 25 heures, ils sont à 30 heures. Il y a beaucoup de contrats étudiants qui voudraient augmenter leur contrat, mais on leur laisse pas la possibilité. Donc ça fait énormément de contrats précaires.
Un constat qui est fortement partagé du côté de la santé et des hôpitaux publics. Nina, par exemple, est infirmière au contact de patients Covid, épuisée, comme on peut le constater en la retrouvant ce matin-là. Au sortir d'une garde, épuisement, responsabilité, investissement personnel d'un côté, salaire insuffisant de l'autre, le déséquilibre devient insupportable.
On nous prévient qu'on ne fait pas ce travail-là pour le salaire. Les gens avec qui je travaille sont des passionnés, mais la passion, à un moment donné, ça ne suffit plus. On n'est plus à l'époque des bonnes sœurs. On se tue au travail avec un salaire qui est minable. Un infirmier commence à 1 750 €. Je pense que la France devrait ouvrir un peu les yeux sur la valeur des gens.
Mais plus généralement, c'est tout le corps paramédical qui est en souffrance, avec un salaire en dessous de la moyenne européenne, comme de celle des pays de l'OCDE, l'organisation qui, dans des chiffres datant de 2017, classait déjà la France à la 22e position, 22e sur 33, constat d'échec pour cet aide-soignant de nuit en service de cancérologie.
Le gros problème, c'est que chaque année, on nous rajoute toujours des charges, des activités supplémentaires, sans qu'on nous rajoute le salaire, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va avec. On a eu une petite prime qui est complètement dérisoire. On parle de l'Europe, des peuples, mais malheureusement, il n'y a pas d'alignement au niveau des salaires. C'est triste parce que le travail qu'on nous demande est énorme.
Et malheureusement, malgré le révélateur de la période du confinement, la reconnaissance n'est pas au niveau en France pour les bas salaires, selon Kader Benayed, représentant syndical Sud Santé et agent de service à l'hôpital psychiatrique Édouard Toulouse.
Ce qu'on fait tourner la France, ce qu'on peut appeler les prolétaires ou les gens de basse besogne, cette crise a démontré qu'on avait réellement besoin de ces gens-là. Tout ce qui n'était pas télétravaillable ou délocalisable, tous ces gens-là avaient une importance et un rôle essentiel, que ce soit dans le nettoyage, dans la santé, toutes les caissières, les fonctionnaires de police. Sauf que là, aujourd'hui, si on est dans la rue, c'est parce que le gouvernement, après les belles déclarations d'amour, aujourd'hui, on a le sentiment d'avoir subi un revers importante.
Mais dans les hôpitaux publics marseillais, tous les paramédicaux sont actuellement en ébullition en raison de primes Covid qui sont refusées aux soignants qui ont été appelés en renfort et embauchés en CDD durant la première vague de la pandémie.
Un reportage Écodici Éco d'ailleurs signé Stéphane Burgat à Marseille. Patrick Artus, on entend une expression dans ce reportage, c'est la valeur des gens, la reconnaissance. C'est quantifiable la valeur des gens ?
Je vais rebondir sur ce qu'a dit Philippe. Je suis pas en désaccord. Il y a plusieurs cas. Des infirmiers, des aides-soignants, des médecins, c'est un service public. Donc là, le concept même de productivité est extrêmement difficile. D'ailleurs, vous savez qu'on ne mesure pas la productivité de l'État. Même les comptables nationaux ont renoncé à le faire. Donc le salaire d'une infirmière, il n'est pas dicté par des conditions de marché. C'est la société qui décide que le service d'une infirmière, les infirmières en Allemagne sont payées 40% de plus que les infirmières en France. Donc c'est un choix. Donc là, on est dans un choix social et politique. C'est pas mon raisonnement d'avant. Maintenant, je me mets dans le cadre d'une entreprise. Donc la grande distribution.
Prenons Carrefour, qui est souvent cité.
Voilà, la grande distribution, le nettoyage. Enfin, on a toutes ces entreprises qui sont importantes, qui ont beaucoup de salariés et beaucoup de salariés mal payés. Ben là, si vous voulez, on a un problème, il faut voir le problème économique. Hein. Les employeurs de ces entreprises sont bien confrontés à une question de productivité. Une caissière chez Carrefour, ça a une productivité qui est mesurable, quoi. Et c'est remplaçable par un robot. Donc, moi, je dis attention, dans ces secteurs-là, il faut faire extrêmement attention à ce qu'on fait. Alors, qu'est-ce qu'on a comme piste pour sortir des bas salaires quand même? La piste 1, c'est ce qu'on fait dans beaucoup de pays, ce qu'on fait en France depuis longtemps, c'est la prime pour l'emploi, la prime qu'on appelle maintenant la prime d'activité. Donc, on dit, l'entreprise n'a pas les moyens de donner des salaires plus élevés, c'est l'État qui apporte un complément de salaire financé par la redistribution collective. Donc, on donne, c'est des sommes assez importantes.
Globalement.
Sur les bas salaires, c'est des sommes assez importantes, la prime d'activité, hein, donc ça peut monter jusqu'à 500 euros, hein, l'État donne un complément de salaire au salaire privé versé par l'employeur, donc c'est la solution qui était retenue en France. Bon, c'est une solution qui a économiquement des avantages, hein, puisqu'elle maintient un coût du travail faible, donc elle détruit pas d'emplois, pas forcément, je dirais, psychologiquement et socialement, je pense, et les enquêtes qu'on a disent, c'est pas la même chose de recevoir un salaire pour son travail que de recevoir un chèque de l'État. Enfin bon, c'est une solution, c'est que l'État amène un complément de salaire, c'est la solution qui est retenue dans un très grand nombre de pays. Et la seconde solution, c'est d'accepter collectivement des hausses de prix. Puisque finalement, tout ça est lié aussi à ce qu'on appelle l'économie low cost, quoi, qui a commencé il y a 20 ou 25 ans. On a voulu des prix bas. On a voulu des prix bas pour le consommateur. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait pour avoir des prix bas? On a fait la grande distribution, avec des salariés assez mal payés, avec des rendements d'échelle. On a délocalisé, donc on a été produire dans les pays émergents. Tout ça pour avoir des prix bas. Donc, si on veut sortir de ce modèle, c'est-à-dire relocaliser et monter les bas salaires, il va falloir accepter une hausse de prix, une perte de pouvoir d'achat. On peut décider collectivement ce qui se passe avec les circuits courts dans l'alimentation, par exemple. Un nombre de gens qui sont d'accord pour payer plus cher un certain nombre de produits parce qu'ils sont locaux, ils sont bio, etc. Alors, est-ce que la société collectivement est d'accord pour sortir de l'économie low cost? Si la réponse est oui, ce qui voudra dire une perte de pouvoir d'achat, faut en être conscient, on pourra relocaliser, on pourra monter les plus bas salaires. Mais on peut pas avoir à la fois les prix bas et relocalisation ou hausse des bas salaires dans le secteur marchand. À nouveau, je parle pas de l'hôpital, qui est une problématique complètement différente.
Philippe Askenazy.
Oui, alors c'est très bien, ça nourrit en quelque sorte un riche débat entre nous. Donc effectivement, il faut certainement distinguer services marchands et services non marchands, mais le concept lui-même de productivité au sein des services marchands est aujourd'hui le résultat de conventions statistiques. On peut le dire, d'une certaine manière, les statisticiens se sont pas trop fatigués pour mesurer ce que pourrait être une productivité de ces travailleurs essentiels. Ce qui est important dans ce qui pouvait être les passages audio dont vous passez, c'est aussi une souffrance au travail qui s'exprime. Et le fait que dans les décennies passées, il y a eu une dégradation des conditions de travail, que ce soit à travers donc une précarité accrue, mais aussi une flexibilité supplémentaire demandée aux salariés, on a très nombreux travaux qui montrent une intensification du travail. Or, ça se voit pas dans les chiffres de la productivité. Soit on est dans un capitalisme complètement absurde, qui fait pas de productivité, pas de salaire supérieur et qui exige de plus en plus au monde du travail, soit il faut plutôt s'interroger sur la manière dont on mesure les choses. Donc je vais vous prendre juste un exemple puisqu'on parlait de la grande distribution. La grande distribution, c'est à la fois des flux, effectivement, c'est ce qu'on mesure. C'est-à-dire une caissière, ça va être le nombre de produits vendus. Mais on ne tient pas du tout compte du fait que, par exemple, les horaires des magasins se sont étendus dans les dernières décennies et que les horaires d'ouverture. Et que ça, c'est un service supplémentaire. C'est un terme de qualité, en quelque sorte, qui a été offert à nous tous comme consommateurs et qui se traduit par des personnes, voilà, des femmes seules, avec enfants, qui travaillent tard le soir, sur des rémunérations qui ne sont pas ou très peu bonifiées. Et lorsqu'on essaye de tenir compte de cet effet qualité, eh ben on se rend compte en fait que pourquoi elles ont aujourd'hui des bas salaires. Et ça, c'est Patrick Artus en parle dans son ouvrage, d'ailleurs qui est passionnant parce qu'il prend en compte de très nombreux arguments. Alors après, il ne donne pas nécessairement le même poids que moi à certains arguments, mais dans typiquement dans la grande distribution française, puis pour l'instant on reste sur la France, mais c'est vrai pour d'autres pays, on est sur ce qu'on appelle des monopsones. C'est-à-dire que de manière locale, il y a des employeurs très puissants localement sur la grande distribution qui peuvent se permettre de laisser des niveaux de rémunération.
Parce qu'ils ont des monopoles.
Parce qu'ils sont en monopole sur le marché du travail local. Alors parfois même, hein, moi j'étais très très surpris lorsqu'on regarde, pour avoir été sur le terrain dans certaines villes moyennes françaises, vous avez plusieurs magasins qui appartiennent à des enseignes différentes et en fait ils sont tous contrôlé par la même famille, qui est une famille puissante locale, qui détient un magasin Monoprix, un magasin Super U. Donc on a une apparence de concurrence, mais en fait, eux organisent un marché du travail local qui maintient artificiellement les salaires de ces travailleurs très bas. Peut-être un mot, si je peux me permettre, sur le cas du nettoyage. C'est un cas très intéressant parce qu'il a été étudié pour la Grande-Bretagne, où il y avait une grosse inquiétude, toujours ce raisonnement. Les entreprises de nettoyage, notamment de bureaux ou autres, si on met un salaire minimum, ça va être un massacre en termes d'emploi. Or, ça n'a pas du tout été un massacre en termes d'emploi parce que finalement, c'était des emplois nécessaires, donc essentiels pour ces entreprises. Et en même temps, tous les fournisseurs ont vu les salaires, ils avaient des marges nulles, les salaires ont augmenté, ils ont dû tous augmenter leurs prix. Et in fine, qui a vu ces marges diminuer? Ce sont les grands employeurs, les grandes entreprises britanniques, et il y a eu zéro destruction d'emplois. Donc il faut bien voir qu'à travers une discussion, alors là on parle de salaire minimum, mais globalement de la montée des salaires, il y a un effet de capillarité qui remet en cause un partage capital travail et non pas, je pense aujourd'hui, un questionnement emploi non emploi.
C'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons des bas salaires avec Philippe Askenazy, professeur à l'École normale supérieure, et Patrick Artus, chef économiste de la banque Natixis, qui vient de publier un livre qui s'appelle 40 ans d'austérité salariale chez Odile Jacob, auquel Philippe Askenazy faisait allusion. Dans votre livre, Patrick Artus, vous mettez en cause, ou vous citez parmi les raisons de l'existence de ces bas salaires, la concentration des entreprises. Le fait, et ce qui revient un peu au monopole décrit par Philippe Askenazy à l'instant, est-ce que cette concentration est quelque chose que les États ont encouragé? Comment est-ce que ça s'est passé, cette concentration? On le voit bien avec les géants de l'Internet aujourd'hui, mais est-ce que ça touche d'autres secteur de l'activité économique?
Oui, alors c'est beaucoup plus violent aux États-Unis qu'en Europe, hein, puisque en fait les autorités de la concurrence, il y a un très bon livre de Thomas Philippon qui vient de sortir sur cette question, mais c'est plus une problématique américaine qu'européenne.
Thomas Philippon qui est un économiste français
qui vit à l'université de New York. Et son livre s'appelle « The Great Reversal », hein, sur le changement d'attitude complet des autorités de la concurrence aux États-Unis. Non, mais je crois qu'en Europe, en tout cas jusqu'à maintenant, c'est un débat aujourd'hui, mais on a gardé des autorités de la concurrence qui sont assez dures, hein, en fait, et qui ont quand même lutté. Alstom Siemens, quoi. Donc, hein, on a des exemples récents, donc qui ont essayé de maintenir une concentration
au niveau européen.
Aux États-Unis, pas du tout. Et il y a le phénomène que disait Philippe. Après, si j'ai 10 secondes, je répondrai à Philippe, parce qu'en fait, on est d'accord, contrairement à ce qu'on voit. Il y a une double concentration. Hein. On parle souvent de la concentration sur le marché des biens. C'est pas que les GAFA, hein, c'est tous les secteurs d'activité aux États-Unis qui se sont concentrés, hein, et pas simplement les grandes entreprises de l'Internet. Et donc ça donne un pouvoir de monopole sur le marché des biens, avec pas mal de travaux qui montrent qu'un des effets les plus pervers, c'est que ces entreprises ont tellement d'argent qu'elles se mettent à investir dans des secteurs d'activité où elles n'ont pas de compétences particulières, elles n'ont pas d'avantages comparatifs particuliers. Et donc, et là, elles sont pas bonnes. Je veux dire, elles sont pas efficaces, mais elles ont tellement d'argent qu'elles débordent finalement de leur secteur de départ. Et puis, ce que disait Philippe, qu'il y a aussi la concentration sur le marché du travail. C'est-à-dire que dans chaque bassin d'emploi, il y a de moins en moins de grands employeurs. Et donc, il y a aussi une rente de bonne option, d'acheteurs de travail. Donc ça, c'est tout à fait juste. Pourquoi est-ce que ça a eu lieu? Alors, il y a une thèse optimiste, une thèse pessimiste. La thèse pessimiste, c'est que le régulateur a été simplement capturé, hein, donc que ces grandes entreprises ont réussi à convaincre les régulateurs de les laisser devenir très grandes, avec un argument nationaliste. Hein. Bon, c'est l'antitrust, quoi, comme on dit aux États-Unis, c'est les autorités de la concurrence ici, un argument nationaliste en disant bah, c'est bon pour les États-Unis d'avoir ces grandes entreprises mondiales, un argument qu'on entend aujourd'hui en Europe, donc... Et puis, il y a un autre argument plus intéressant qui est de dire qu'il y a vraiment des rendements d'échelle croissants. C'est-à-dire qu'effectivement, dans certains domaines d'activité, les entreprises sont d'autant plus efficaces qu'elles sont grandes. Donc à ce moment-là, il faut les laisser grandir, mais il faut les réguler. Hein. Donc le problème, c'est qu'elles sont... On les a laissées grandir, mais on les régule pas.
Et donc, plus une entreprise est grande, plus elle a tendance à baisser les salaires.
S'il y a beaucoup de coûts... Non, mais alors, si elle est grande sur le marché des biens, si y a rendement croissant, c'est une bonne nouvelle, puisqu'elle est plus efficace. Non, là, après, il y a le marché du travail. Effectivement, si vous avez des villes où il y a un employeur majeur, il a une position de rentier, enfin, de forte sur le marché du travail. Juste pour répondre à Philippe, mais en fait, on dit la même chose. Aujourd'hui, on est dans un monde où on a une exigence de prix bas. Alors ça vaut pour le consommateur et ça vaut pour les entreprises qui achètent des services à d'autres entreprises. Quand une entreprise d'automobile achète des services de nettoyage, de transport, de logistique, etc., elle met en concurrence et elle exige des prix extrêmement bas. Donc dans ces sous-traitants des grandes entreprises, il y a une pression extrêmement forte à la baisse sur les salaires. Mais si on veut en sortir, il va falloir que ces entreprises montent leurs prix. Et effectivement, quelque part, on va détruire de la rentabilité du capital. Hein. Donc, il faut comprendre qu'à la fin, à nouveau, je ne parle pas de l'hôpital, où là, on est dans une logique différente, mais dans le secteur privé concurrentiel, on ne sortira de ces bas salaires, un, que si les consommateurs acceptent une certaine perte de pouvoir d'achat en payant plus cher un certain nombre de produits, et deux, que s'il y a une baisse de l'exigence de rentabilité du capital, globalement, pour les grandes entreprises. Hein, sans ces deux choses-là, on n'y arrivera pas.
Alors, on va repartir sur le terrain, ailleurs, plus en France, mais en Turquie, où après plusieurs années de forte croissance sous la houlette du président Erdogan, l'économie est embourbée dans les difficultés depuis 2016, avec notamment une inflation à deux chiffres et une monnaie défaillante. Le pouvoir d'achat des Turcs en est d'autant plus affecté que leur salaire n'augmente pas sur fond de chômage structurel. À Istanbul, c'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Anand Lower.
Le week-end approche. Okan, 41 ans, chargé d'études en marketing, devrait pouvoir se détendre un peu. Mais il n'en a pas l'air. La fin de semaine approche, certes, mais la fin du mois aussi. Et son compte bancaire est quasiment vide. Après 15 ans de carrière, ce stambouliote gagne environ 7500 livres turcs par mois, l'équivalent de 840 euros. C'est un peu plus de 3 fois le salaire minimum. Beaucoup de Turcs en rêveraient, mais c'est tout juste assez pour payer le loyer, les factures, les courses, l'essence de la voiture et les autres dépenses de sa famille. Ces deux dernières années, alors que les Turcs ont vu fondre leur pouvoir d'achat en même temps que la valeur de leur monnaie face au dollar et à l'euro, le salaire d'Okan n'a pas augmenté. Au contraire.
Non seulement je n'ai pas eu d'augmentation ces deux dernières années, mais j'ai perdu des droits qui ont fait baisser mon salaire. Avant, mon employeur nous accordait des aides. Aide à la garde d'enfants, aide à la location, aide au transport. Toutes ces aides ont été supprimées. Je ne suis pas optimiste pour l'avenir. Je ne m'attends pas à voir mon salaire augmenter dans les prochaines années.
Okan considère malgré tout qu'il est plus à envier qu'à plaindre. Plus de 4 salariés turcs sur 10 sont payés au salaire minimum, soit 2324 livres nets. Pour Ahmed, 24 ans et célibataire, l'avenir se dessine à l'étranger. Diplômé en architecture, il désespère de trouver un emploi dans son secteur. Et pour cause. 13,4% de la population active est au chômage, dont un quart des Turcs de moins de 25 ans. Depuis quelques mois, Ahmed travaille comme livreur à moto, payé au salaire minimum. Mais il a bon espoir de s'expatrier en Allemagne, où vivent son oncle et ses cousins, dès que cela sera possible.
En Allemagne, le salaire minimum est d'environ 1500 euros. Dans notre pays, il ne dépasse pas 260 euros et notre pouvoir d'achat ne cesse de baisser. Prenons un exemple très simple. Avec 100 livres en Turquie, je ne peux quasiment rien acheter au magasin. En Europe, avec 100 euros, on peut faire des courses pour une semaine. Il n'y a plus grand-chose qui rende mon pays attractif pour les jeunes comme moi.
Le point commun d'Okan et Ahmed, c'est que leur activité est déclarée, qu'ils touchent un revenu mensuel. À l'inverse, on estime qu'un tiers des travailleurs turcs exercent dans le secteur informel, souvent au pays à la journée, sans contrat de travail ni protection sociale. C'est fréquemment le cas dans le secteur du bâtiment où, sous-payés, les ouvriers sont victimes d'abus. Après avoir travaillé pendant 6 mois sur un chantier, Tunjay attend toujours qu'on lui verse les 12 000 livres promises.
L'employeur n'a déclaré qu'un seul jour de travail. Il a promis de payer le reste de la main à la main. Puis il nous a dit qu'il avait des difficultés en ce moment, qu'il nous paierait tout ce qu'il nous devait à la fin du chantier, sans faute. Il nous a fait un chèque qui s'est révélé sans provision. Je n'ai pas le choix de refuser ces conditions. Si je ne travaille pas, je ne peux pas payer mon loyer, mon eau, mon électricité.
Des salaires bas et qui n'augmentent pas, la peur du chômage qui oblige à accepter des emplois sous-payés ou pour lesquels ils sont parfois surqualifiés, le pouvoir d'achat en chute libre, les salariés turcs subissent de plein fouet une crise que l'épidémie de Covid-19 n'a fait qu'amplifier et qui continue d'entamer la popularité du président Recep Tayyip Erdogan au pouvoir depuis 17 ans.
Un reportage signé Anne Andlauer à Istanbul. Patrick Artus, il y a un lien entre bas salaire et chômage de masse? Est-ce que c'est automatique?
Évidemment, le chômage fait baisser les salaires. Hein, ça est... Mais je, peut-être avant, je réfléchis à votre question tout en parlant. Enfin, le cas turc est très particulier. Je crois qu'il ne faudrait pas croire que ceci est représentatif du monde émergent. Dans le monde émergent, il y a plein de pays qui, au contraire, connaissent des rattrapages extrêmement rapides de pouvoir d'achat, en particulier en Asie. Hein. Et alors, il y a quelques pays qui n'y arrivent pas. Et de façon assez intéressante, ce sont des pays où il y a un déficit d'épargne. Il y a quelque chose qui est malheureux, effectivement, c'est que on ne peut pas financer durablement sa croissance en empruntant auprès des autres pays, en empruntant auprès du reste du monde. Et ça, c'est le malheur de l'Amérique latine et c'est le malheur de la Turquie. Hein, des pays qui ont peu d'épargne, donc qui ont lié leur croissance à l'endettement extérieur. Et à un certain moment, ce modèle explose. Le taux de change, et ce que nous racontent les personnes que vous interviewez, vient essentiellement de l'effondrement du taux de change, hein, qui a fait baisser le pouvoir d'achat, qui a fait monter les prix. Alors après, chômage de masse, salaire... Ouais, on n'est pas dans un monde de chômage de masse. Hein. Si vous prenez l'OCDE globalement, on est plutôt dans un monde de chômage bas. Ce qui caractérise le monde, c'est plutôt que le chômage de masse, c'est plutôt le dualisme du marché du travail. C'est-à-dire qu'on a créé énormément d'emplois, ce dont on parlait avant, hein, dans des services assez peu qualifiés, avec des salaires bas, et en même temps, on a créé énormément d'emplois. Beaucoup d'emplois pour des gens qualifiés en haut de l'échelle des salaires, et il y a au milieu la fameuse disparition des emplois intermédiaires. Hein. Donc la dynamique du marché du travail, c'est plutôt une dynamique de polarisation qu'une dynamique de chômage de masse. Le chômage est assez faible quand même. Alors non, la France est un pays à chômage élevé, mais vous prenez l'ensemble des pays de l'OCDE, ce qui caractérise le marché du travail, c'est cette dynamique de polarisation qui est associée à la forte baisse de la mobilité sociale.
Mais vous, dans le livre que vous venez de publier, Patrick Artus, vous parlez de 40 ans d'austérité salariale.
Oui.
Alors c'est une formule qu'on n'a pas employée, sauf pour citer votre livre, depuis le début de cette émission. Mais 40 ans d'austérité salariale, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a une volonté délibérée des pouvoirs publics ou de la communauté, des communautés nationales pour organiser ça.
Non, mais mon point de vue, je le répète, et c'est de dire que plus on avance dans le temps, plus la rentabilité exigée du capital, et en particulier dans les grands groupes, est trop élevée. Prenez en ce moment, dans l'OCDE, le rendement du capital, c'est 12 ou 13% par an, les États s'endettent à zéro. Hein, donc il y a un écart énorme.
Quel est le problème, là?
Le problème, c'est que comment vous faites pour avoir 13% de rendement quand vous investissez 1 euro dans du capital d'un grand groupe, alors que vous avez 0% de rendement quand vous prêtez aux États? Comment vous obtenez cet écart qui est beaucoup plus important qu'il y a 20 ans, hein, où il était de 3 ou 4 %? Aujourd'hui, cet écart est de 12 ou 13 %.
Non, mais... Pourquoi est-ce un problème?
C'est un problème parce que comment vous faites? Donc, si vous voulez 13% de rendement du capital alors que les taux d'intérêt sont de zéro, Vous ne pouvez pas l'obtenir par des activités normales. Donc, quelles sont les solutions? C'est un, délocaliser vers des pays à salaire faible, ce qu'on a fait. Deux, déformer le partage de revenus au détriment des salariés, ce que j'appelle l'austérité salariale, ce qu'on a fait. Trois, on en parlait avant, avoir des rentes de monopole qui permettent d'augmenter les marges des entreprises. Et quatre, de racheter vos actions et prendre du levier d'endettement, ce qui est plus technique. Donc c'est mon point d'avant. Je pense qu'il y a un lien extrêmement fort entre la rentabilité exigée du capital, et là je parle pas des PME, des petites entreprises, ils sont dans les grands groupes, dans le capitalisme contemporain, et à la fois délocalisation, monopole et austérité salariale.
Et vous faites le lien aussi, alors c'est assez technique, Patrick Artus, entre le niveau des salaires et les taux d'intérêt.
Alors après, ce que j'explique dans le livre, c'est cette chose, cet équilibre tout à fait magique qu'on a trouvé, c'est-à-dire que quand les salaires sont bas, il n'y a pas assez de demande. Donc il s'est posé la question de soutenir la demande. Comment on a fait pour soutenir la demande? On a d'abord utilisé l'endettement des ménages. Donc on dit aux ménages, certes, vos salaires n'augmentent pas, mais vous pouvez vous endetter. C'est les subprimes. Vous dites à des Américains qui ont des salaires très faibles, vous pouvez quand même acheter une maison. On va quand même vous prêter. Et ça explose avec la crise des subprimes. Après, on a utilisé les dettes publiques. Donc on a fait s'endetter les États pour soutenir la demande, toujours dans ce monde de salaire faible. Et maintenant, ce sera un autre sujet, on utilise la monnaie. En fait, on distribue en fait de la monnaie pour soutenir la demande. Et donc on est en train sans arrêt de chercher des béquilles à la faiblesse de la demande qui vient de la faiblesse des salaires. À nouveau, on en parlait tout à l'heure, le cas français, ce qui rend le débat compliqué en France, c'est quand même assez particulier. Mais si vous prenez l'ensemble de l'OCDE, on est clairement dans cette dynamique-là.
Les béquilles, elles vont fonctionner toujours, Philippe Askenazy?
Alors je n'en suis pas certain. Alors peut-être quand même un mot sur la Turquie. Comme vous le disiez, c'est à partir de 2016 que véritablement il y a une forme de retournement après des années de miracle turc, et même on louait finalement qu'un régime autoritaire pouvait être performant d'un point de vue économique. Et c'est, je pense, malheureux pour les Turcs, mais heureux d'une certaine manière de voir que cette assertion même fausse, et que par derrière, dans ce miracle turc, il y avait la perspective d'une intégration à l'Union européenne. Et c'est au fur et à mesure de l'éloignement de cette perspective aussi qu'il y a des difficultés aujourd'hui de l'économie turque. Et puis, dernier point, c'est, comme c'était cité, le fait qu'on se retrouve aujourd'hui dans une économie globalisée fait que pour de nombreux biens, les prix sont des prix mondiaux. Et c'est pour cela qu'on se retrouve finalement avec des problématiques de niveau de vie qui sont majeures, puisque finalement pour certaines masses de biens, les prix vont être le même en Allemagne que en Turquie, et c'est pour ça que finalement c'était un architecte turc on faisait une comparaison entre son pays et l'Allemagne qui nous ouvrirait vers un autre type de sujet qui est aussi celui des migrations des migrants, et qui est un sujet, je pense, important, et qu'on a raison de pas évoquer, puisqu'il est en partie orthogonal avec la problématique de l'austérité salariale. De c'est pas parce qu'on a des migrants que on a des salaires qui sont affaissés chez nous. Donc béquille, oui, moi je suis convaincu que on est aujourd'hui dans un oublions d'une certaine manière le Covid pour l'instant, mais on était dans un capitalisme qui aller droit dans le mur, qui est en situation de profond déséquilibre, où la surconsommation des uns, ou plutôt je parlerais même de malconsommation des uns, donc de ceux qui ont des très hauts revenus, qu'ils soient du capital ou du travail, et la sous-consommation chronique majeure de la population, donc la première moitié de la distribution des salaires des travailleurs, y compris en France, eh bien se traduit par des déséquilibres d'un point de vue macroéconomique, je dirais encore plus vous parliez du cas des Gilets jaunes, une colère sous-jacente qui fragmente nos sociétés et sont porteuses pour les sociétés occidentales démocratiques de menaces réelles et notamment de montée des populismes d'extrême droite. Et je crois que au-delà même des questions économiques, aujourd'hui, il y a une problématique existentielle pour nos démocraties et que on risque d'avoir quelque sorte le pire des mondes, un capitalisme autoritaire qui soit la seule manière de faire survivre le capitalisme très inégalitaire que l'on connaît aujourd'hui.
Un autre exemple, dans un pays de l'OCDE, le Québec, où environ 20% des actifs sont considérés comme mal payés, proportion relativement stable depuis 10 ans. Mais l'âge des gens concernés augmente. Autrement dit, il ne s'agit plus d'emplois étudiants, mais en bonne partie de citoyens qui vont garder cette faible rémunération toute leur carrière. De façon générale, le secteur des services au Québec, qu'il s'agisse des soins aux enfants ou encore de la restauration ou de la vente dans la distribution, reste mal rémunéré. Pascal Guéricola a rencontré quelques-uns de ses salariés à Québec.
Au Québec, les parents à l'école peuvent compter sur le service de garde qui prend les élèves en charge à la pause du midi et pour quelques heures à la sortie des classes en milieu d'après-midi. Les éducatrices s'adaptent donc à un horaire de travail morcelé, ce qui limite leurs revenus à la fin du mois. Passionnée par son métier, Nathalie ne roule pas sur l'or pour autant.
Un petit peu la survie, les besoins nécessaires. Donc oui, l'appartement, moi j'ai pas de voiture non plus. Ça me limite aussi dans les voyages, les trucs qu'on peut se payer dans la vie, là. Oui, c'est difficile. J'ai déjà essayé d'avoir un deuxième job, mais bon, c'est le samedi et le dimanche, donc t'as aucune journée à toi. J'ai l'impression de pas être grand-chose. Il y a des soirs que j'arrive chez moi, puis je fais « épelaille ». C'est ça, j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose, mais en même temps, j'ai l'impression que ça n'a pas paru. Je sais que ça se monnaie pas de la valorisation, mais ça aide beaucoup quand même. Ça, on l'a pas.
Les salariés dans le secteur de l'alimentation vivent aussi des fins de mois difficiles, particulièrement dans les petits commerces non syndiqués. Cet employé depuis 6 ans dans une épicerie de quartier a l'impression que son revenu stagne. Très serrée dans ses finances, elle doit toujours prévoir la moindre dépense, comme l'explique la jeune femme.
Tu sais, comme faire du sport ou se payer... je sais pas, moi j'aime ça faire du yoga, genre. Je veux pas me payer 5 000 à faire, là, juste comme des cours de yoga, mais tu sais, juste ça, faut que j'y pense vraiment beaucoup à l'avance avant de faire ce choix-là, parce que bon, ben, après ça, je suis handicapée de ce montant-là.
Son collègue et compagnon de vie aimerait bien, lui, changer de métier. Cependant, sa paye trop limitée l'empêche de faire des économies pour prendre un véritable virage professionnel. Cette insécurité financière l'inquiète.
Tu sais, puis on fait attention, tu sais, on sort pas. Puis moi, des fois, ça me fait peur dans la situation du COVID. J'ai juste d'être en arrêt 2 semaines, ça me stresserait parce que... Ça, j'aurais peur qu'il remplace. C'est stressant un peu.
On n'a vraiment pas envie que personne amène le COVID au magasin parce que je pense qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire si on perd notre job momentanément. Là.
La pandémie de COVID a fait réaliser aux Québécois l'importance de certains salariés du secteur de l'alimentation. Cette prise de conscience a cependant un effet limité sur leur salaire.
On boucle la boucle, là, en quelque sorte. On revient aux problématiques qui étaient exposées au début de l'émission avec ce reportage de Pascal Guéricola. Mais... La crise provoquée par le Covid fait chuter massivement en Europe, en particulier les produits intérieurs bruts, la richesse nationale. Est-ce que c'est le moment de parler de hausse de salaire?
Patrick, je voudrais dire autre chose aussi. Oui, mais bon, on va pas centrer toute la réflexion sur le Covid. Hein. On aura un vaccin. Alors on peut se battre pour savoir si c'est en janvier, en février ou en mars. Et peut-être que après le vaccin, alors il restera des choses irréversibles. Peut-être pas tant que ça, hein, donc il faut pas non plus ne réfléchir qu'aux 6 prochains mois. Je veux lire un mot de l'immobilier, parce que une des causes quand même assez centrales, et en particulier dans un pays comme la France, mais aussi au Canada d'ailleurs, c'est ça qui me fait penser, du problème de pouvoir d'achat, c'est quelque chose qui n'est pas dans les indices de prix, hein, c'est le coût du logement. Hein, on a dans tous les pays des hausses absolument gigantesques. En France, en 20 ans, les logements, le prix des logements a augmenté 2 fois plus vite que les salaires. Hein. Et donc, statistiquement, à un certain moment, le coût de se loger a doublé comme dans les budgets quoi, des salariés. Et donc, on a un vrai problème qui est le problème du coût du logement. Je pense que ça, c'est une, pour moi, une des causes majeures des problèmes de pouvoir d'achat, des problèmes de tension sociale. Se loger est devenu beaucoup, beaucoup trop cher. Alors, qu'est-ce qu'on a essayé de faire face à ça? On a eu des remèdes qui étaient extrêmement inefficaces, puisqu'on a, on a subventionné les personnes hein, pour qu'elles puissent se loger. Mais comme on ne construisait pas plus, ça empirait le mal, hein, puisque ces subventions hein, ont été
captées.
Ça fait monter les prix ou les loyers, c'est bien documenté. Donc, il y a une vraie réflexion qu'il faut avoir, à la fois sur la politique monétaire, puisque une des raisons de la hausse du coût du logement, c'est la politique monétaire très expansionniste hein, qui fabrique des bulles immobilières.
C'est-à-dire hein. que les banques centrales qui distribuent des, bah,
des taux d'intérêt extrêmement ouais. bas, qui font monter les prix de l'immobilier. Hein, et l'immobilier devient, ça devient un investissement. Hein, c'est... Et puis sur la politique du logement, il faut construire, quoi. Je veux dire, hein, il faut construire, il faut densifier les villes, il faut faire. Je crois qu'il faut, aussi, c'est l'occasion, parce que à nouveau, c'est une problématique extrêmement forte au Canada. Vous avez vu en particulier l'arrivée. Venant de Vancouver, mais traversant tout le Canada, des capitaux chinois hein, qui ont fait exploser les prix de l'immobilier au Canada et ce qui a vraiment aggravé le sentiment de pauvreté.
Philippe Askenazy.
Oui, alors le Canada est un pays intéressant. Enfin, plutôt, il y a plusieurs provinces. Donc là, on était en plus au Québec. Hein, il n'y a pas exactement les mêmes institutions du travail, ni même d'ailleurs le même salaire minimum.
Oui, c'est pour ça que je n'ai pas prononcé le mot Canada.
Oui. Restons sur le Québec. Je ne réagirai pas sur le coût du logement, mais c'est effectivement un vrai problème par ailleurs. Mais ce qu'il y avait d'intéressant dans le témoignage que vous avez eu, c'était la remarque « petit commerce non syndiqué ». Et je crois que sur ce plan-là, lorsqu'on regarde le monde du travail au Québec, vous avez certains secteurs, c'est le cas par exemple du travaux public, où vous ne pouvez pas travailler dans une entreprise sans être syndiqué. Voilà. C'est, donc il y a 100% de syndicalisation, c'est une forme de co-gestion en quelque sorte, et les rémunérations dans les travaux publics où il y a des géants français d'ailleurs qui sont présents sur place sont très largement supérieures à celles de travailleurs du commerce et largement supérieures à ce que l'on peut voir en France. Donc ça renvoie, vous voyez, typiquement les travaux publics, on dit c'est un univers concurrentiel, alors certes à partir de en grande partie de commandes publiques, mais tout cela est modéré par le fait qu'il y ait des organisations syndicales. Et je crois que ça, c'est une autre question. Vous pouviez, mais quels peuvent être les leviers? On a parlé beaucoup de salaire minimum, mais c'est aussi un des leviers centraux, c'est de réarmer le monde du travail. Et lorsque Patrick Artus dit il n'y a pas eu d'intentionnalité d'austérité salariale, il y a eu clairement une austérité, une intentionnalité de nombreux gouvernements d'affaiblir le mouvement syndical, la capacité des travailleurs de se mobiliser de manière collective, la flexibilité des contrats de travail, c'est aussi une incapacité de faire jouer un pouvoir de négociation individuel. Donc cet affaiblissement du monde du travail est aujourd'hui quelque chose qui pèse beaucoup. Et justement, le cas canadien où on voit que dans certaines situations, les salaires peuvent être tout à fait décents, et dans d'autres, pour d'autres champs du travail non syndiqués, des niveaux de rémunération qui ne permettent pas de vivre, notamment par du fait d'un coût du logement trop élevé, doit interroger sur refondre un pouvoir de négociation
du syndical.
Un pouvoir syndical.
Mais que Patrick Artus appelle de ses voeux d'une certaine manière dans son livre aussi.
Oui, alors je finis un livre la semaine prochaine où je suggère la syndicalisation de tous les salariés, donc je partage. Mais avec un argument différent. L'argument différent est que peut-être une chose différente, peut-être. Enfin, ça dépend des pays, d'ailleurs, de la façon dont fonctionne le syndicalisme. Moi, je pense qu'il faut un dialogue social décentralisé, très important, et que une des solutions au problème dont nous débattons ce matin, c'est un dialogue social beaucoup plus actif dans toutes les entreprises, mais de façon locale. C'est-à-dire, je ne crois pas au Grenelle, quoi. Je ne crois pas aux grandes négociations nationales. Je ne crois pas aux accords de branche. Je pense qu'il faut avoir un syndicalisme actif en entreprise. Ce qui était d'ailleurs une des choses que disait Macron, il me semble, avant d'être élu. C'est ce que dit Laurent Berger, par exemple.
Le patron de la CFDT.
La CFDT, d'avoir un syndicat. Et pour avoir un syndicalisme actif en entreprise, il faut que les salariés soient syndiqués, y compris dans les petites entreprises, bien sûr.
Merci à vous deux, Patrick Artus, Philippe Askenazy. Cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez nous réécouter sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, ou sur notre application Pure Radio sur votre smartphone. Dans les deux cas, à l'onglet émission. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Radio RFI.